reste à titre principal. Il était à la fois très opportun et très légitime qu'à un moment donné de nos travaux, nous puissions donner la parole à des acteurs du monde de l'entreprise, que sont nos deux invités, que je remercie beaucoup. Alors, je n'ai pas besoin de les nommer puisque vous avez leur nom affiché, et je n'ai pas non plus besoin de les présenter parce qu'ils le feront eux-mêmes, ils se présenteront, et notamment ils vous présenteront leur activité. L'un est chef d'entreprise, l'autre est directeur des ressources humaines. Donc c'est les profils idéaux pour parler de l'avenir de l'entreprise capitaliste, pour parler des bienfaits de la lutte des classes, hein, par exemple, pour parler de manière générale de ce qui nous intéressait selon un autre point de vue. Et l'entrée à laquelle nous avons songé, c'est justement cette proposition qui est connue dans le monde contemporain comme étant une proposition portée, notamment elle a été mentionnée par la fondatrice des Focolari avec un objectif qui était d'assurer par des communautés jusqu'à l'échelle mondiale l'émergence d'un modèle entrepreneurial qui corresponde à la communauté religieuse laborieuse, hein, de type monastique avec le modèle bénédictin. Et c'est là qu'il y a ce prophétisme, ça c'est la question précisément, cette audace évangélique et doctrinale, et aussi ce grand saut à la fois économique et même épistémologique entre le passage, dans le passage entre une réalité où des hommes ou des femmes se sont réunis non pas pour entreprendre, parce que le modèle de départ c'est celui-là, sauf que sa logique ça n'est pas du tout celle-là. Dans notre règle, la règle sur laquelle nous faisons profession, nous les dominicains, la règle de Saint-Augustin, une des premières phrases c'est « Pourquoi êtes-vous donc réunis si ce n'est pour habiter ensemble d'un même cœur ?» Ce qui n'est pas du tout pour réaliser un objectif de rentabilité. Alors, il y a ce saut proposé, et puis il y a ce saut qui soit enjambe, soit se prendre plein fouet la réalité, et c'est un petit peu justement sur cette réalité et sur le potentiel de cette réalité que nous allons réfléchir. Alors, sur un format un peu différent, comme vous le voyez, parce que nos deux intervenants vont chacun, après s'être présentés, dire quelques mots un peu introductifs sur leur vision du sujet et un peu les visions des visions en lien avec les thèmes que nous avons déjà abordés, que nous souhaitons aborder pendant ces deux jours. Et puis après, ils échangeront, on reprendra quelques questions. On va le faire parce qu'il est nous sommes vendredi après-midi, parce que nous sommes dans une heure qui canoniquement serait toujours celle de la sieste. Hein. C'est même la plus terrible, c'est celle qui se situe entre la fin de la sieste et le début de l'apéritif. Vraiment pas évident. Et que nous sommes aussi à température, voilà, c'est forcément un moment un peu difficile. Alors on va le faire d'une manière un petit peu plus, si vous voulez, active, en utilisant un petit peu de provocation aussi, et en suscitant un peu plus également vos échanges. Hein. On va se laisser un petit peu plus de temps pour terminer au plus tard, tout emballé, tout compris, à 17h15. Hein, recevoir quelques instructions aussi pour la soirée, qui est une soirée, comme vous l'avez noté sur le programme, un peu particulière et qui est un moment, j'ai horreur de cette expression très en vogue dans l'ecclésiolangue, le temps fort, mais c'est le temps fort de l'Université d'été de la Sainte-Baume. Voilà, alors c'est peut-être Bernard qui va commencer. Voilà.
Je vais commencer. Merci frère. Merci de m'avoir invité. C'est toujours impressionnant de passer après des gens qui ont beaucoup étudié la matière. Moi, je l'ai pratiqué. Donc, vous verrez, ça sera peut-être un peu terre à terre. Mais je pense que ça complète bien. Alors, qui je suis? Je m'appelle Bernard Labortalière. Je suis DRH d'un groupe qui s'appelle Adélaïde. C'est un groupe de courtage de l'assurance. Donc, travaillons avec nos clients pour les assurer sur des contrats qui sont d'assurance et de couverture de risques, soit dans le dommage, en responsabilité civile, en transport, qui représentent de très grands enjeux pour eux, parce que c'est des primes d'assurance qui sont parfois en millions, qui sont parfois vitales pour leur entreprise. Donc on a déjà la chance de faire un très beau métier. Moi, j'ai beaucoup bourlingué dans ma vie, j'ai été DRH dans plusieurs boîtes, dans l'industrie, dans le commerce, dans la téléphonie. J'ai une autre caractéristique aussi, c'est qu'à chaque fois que je suis DRH, je décide de faire un autre métier dans l'entreprise. Donc j'étais en même temps directeur d'usine, et là actuellement je suis commercial en même temps dans mon entreprise. Ça, c'est ma décision, parce que j'aime bien, je m'intéresse à tout ça. Donc l'intérêt de ma carrière, j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu pas mal de modèles, j'ai vu des entreprises émissions, j'ai vu des entreprises libérées, j'ai vu des entreprises normales. La caractéristique majeure, je dirais, c'est que ces cas, c'est surtout des entreprises humaines. Avant de venir sur ma famille et sur les Dominicains, je ferai le lien avec le thème d'aujourd'hui. Juste une réflexion par rapport à ce qu'il dit avant, sur les jeunes et sur le sens. Moi, quelque chose qui marque énormément sur les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Je suis le premier à dire qu'il faut du sens, mais la première chose que je leur dis dans le travail, c'est qu'il ne faut pas faire ce qu'on aime, mais il faut apprendre à aimer ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a un petit hiatus aujourd'hui chez les jeunes sur leur choix et sur ce qu'ils veulent faire et ce qu'on a besoin, ce que les entreprises ont besoin et que la société a besoin. Ça, c'est un petit aparté par rapport à ça. Alors, depuis, je ne présente pas ma famille. Moi, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis cerné par les Dominicains, comme je viens quand même à le dire. Ma femme est depuis très longtemps laïque dominicaine. Bonjour, quelques laïcs qui sont ici. J'ai un fils qui est laïque dominicain, une belle fille qui est également laïque dominicaine. Et j'ai eu le plaisir d'avoir mon fils aîné, qui a été ordonné prêtre, en juin de l'année dernière, qui vient demain ici. Alors, pourquoi je dis ça? C'est quand mon fils est rentré chez les Dominicains, je me suis quand même intéressé un peu différemment à l'ordre, et j'ai lu un livre qui est écrit par le frère Alain Kélissi, par un autre frère, je
l'ai oublié. Guy Bédouel,
sur les gouvernements des ordres dominicains, des bénédictins et des jésuites. Moi, je vous engage à le lire, si vous voulez avoir du gouvernement d'entreprise, c'est passionnant. Et pourquoi je dis ça? Parce que le sujet, c'est est-ce que la communion en entreprise est possible? Est-ce que c'est une utopie? Alors la réponse, pour moi, elle est très claire, c'est une utopie. Ce n'est pas le sens de l'entreprise. Et je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi aussi les entrepreneurs ont intérêt à aller chercher cette utopie. En fait, chez les Dominicains, comme chez les Bénédictins, ou chez les Jésuites, il y a un gouvernement qui est très typé, celui des Dominicains, probablement l'utopie la plus réussie d'un gouvernement de communion. C'est pour ça qu'on dit que souvent les Dominicains, c'est le plus grand désordre, au sens propre et au sens figuré. Parce qu'effectivement, il y a une vraie communion. Et c'est vrai aussi chez les Bénédictins et c'est vrai chez les Jésuites. Et la caractéristique, pour moi, que j'en ai définie, c'est qu'il y a une liberté. Les Dominicains, les Jésuites, rentrent en liberté dans ce mouvement. Après, c'est une communauté d'hommes. Je ne dis pas que la liberté au quotidien est simple, mais il y a une vraie liberté. Dans une entreprise, et c'est pour ça que c'est la communion en théorie de l'utopie, dans une entreprise, on a bien un lien de subordination. La relation, et ça on oublie de le dire à nos jeunes, aujourd'hui comme avant, la relation de travail est bien juridique à la base, c'est un contrat qui est signé et qui fait qu'un collaborateur ou une collaboratrice loue ses bras, son cerveau, pour faire une tâche dans l'entreprise. Et donc ça, c'est pas une vraie liberté. Il y a bien une relation de subordination dans l'entreprise qui fait qu'à partir du moment où on rentre dans l'entreprise, on n'est pas libre et donc la communion ne peut pas se générer en tant que telle. Donc ça, pour moi, c'est un point important. En revanche, elle a vraiment intérêt à aller vers cette idée de communion. Et on peut vraiment faire des choses dans l'entreprise. Alors, je vais citer une anecdote qui montre l'intérêt d'avoir une forme de communion d'entreprise. La communion d'entreprise, souvent, on appelle ça le développement du capital humain, pour ceux qu'on a entendu parler. Je vais donner une anecdote. En entreprise industrielle, on était en forte croissance, on avait des super sujets à traiter. Pour des raisons très complexes, on construisait une usine au Canada qui a mis plus de deux ans à produire pour tout un tas de problèmes. Au bout d'un an, les banquiers nous ont dit on coupe les fonds. Donc ça voulait dire vendre l'entreprise, fermer l'entreprise, enfin des décisions très très difficiles. La seule solution qu'on avait, c'était l'entreprise à feu continu qui marche 24 heures sur 24. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut que toutes les autres usines compensent l'usine qui ne fonctionne pas et donc il fallait qu'elle fasse plus de 20% de production. On est allé voir les ingénieurs français. je dis bien français, parce que les autres ingénieurs américains n'ont pas raisonné de la même façon. Le meilleur des ingénieurs français nous a proposé un plan de 3% d'augmentation de la production. Logique, c'est un feu continu, ça marque du temps, des choses comme ça. Moi, j'avais un très très bon rapport avec les ouvriers, qui étaient globalement des Portugais, des Algériens, des Marocains, plutôt très âgés, et la plupart illettrés. Avec le directeur industriel, on est allé les réunir, et on leur a dit, ben voilà, il faut qu'on fasse sur cette usine, qui était la plus grosse usine de gélatine au monde, plus 20% de production sur cette usine. Ils nous ont regardé, un ouvrier qui je connaissais très bien a levé la main, il a dit, on va le faire. Alors là, mon directeur industriel, il tombe de sa chaise, il dit, ben comment on peut le faire, voilà, on est à fond, ça produit. Ben, il dit, ben c'est simple, moi, mon poste. Sur la réalité des ingénieurs, c'est sur une conduite numérique, c'est tout propre, les tuyaux sont droits, ça fonctionne et machin. Dans la réalité des postes, il y a 400 mètres de distance sur mon poste. Ça fait 10 ans que je demande d'avoir deux caméras qui me permettent, quand je suis à un endroit, de voir l'autre côté. On produit de la gélatine. La gélatine, dès que les flux ralentissent, ça gélifie. Donc l'usine s'arrête et on perd la production. Je cite cet exemple, mais donc ça nous a coûté 100 euros à peu près. On a mis deux caméras. Et cette action a fait que cette usine-là produit 7% de plus. Alors je me demandais, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais ça fait 10 ans qu'on le demande. Donc quand on met dans une entreprise qui fonctionne beaucoup aujourd'hui sur du process, qui est très rassurant le process, les managers mettent des process, on sait ce que ça donne, c'est médiocre, on sait ce que ça donne, et à la fin vous dites à votre chef, on va produire ça, et vous allez effectivement produire ça. Et on n'institue pas avec la communauté des employés et des ouvriers les relations qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Or, les gens, ils savent faire. Or, les gens, ils sont responsables. Et si vous leur donnez du sens, s'ils savent à quoi ils servent, c'est pour le client, et ça, c'est valable dans toutes les industries, dans tous les services, en fait, ils vont aller beaucoup plus loin. Alors, on dirait, pour la petite histoire, on a produit plus de 28% sur cette usine, avec tout un tas de sujets, certains un peu plus complexes. Vous imaginez la capacité qu'on aurait eue depuis au moins 10 ans à produire et à pouvoir dégager des marges de manœuvre. Et c'est une entreprise familiale qui redistribuait plutôt bien aux collaborateurs. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on pourrait se dire, ben en fait, c'est quand même intéressant d'avoir une communion, une vraie communion, avec des collaborateurs qui sont associés, des choses comme ça. Ben, la première raison, je l'ai donnée, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus simple pour les cadres et les dirigeants de processer, parce qu'on sait exactement ce que ça fait. Le deuxième sujet, c'est une histoire d'homme, c'est-à-dire qu'il faut, vouloir le faire, il faut être courageux pour faire ça, parce que ça veut dire du temps, ça veut dire de l'énergie, ça veut dire du management, et ça veut dire des compétences. Ça fait 35 ans que je bosse, au moins, je l'ai vu deux fois, des dirigeants capables de le faire. Alors j'ai de la chance, c'est mon dirigeant actuel qui est capable de le faire, et j'ai eu de la chance, c'est mon premier dirigeant qui a vraiment forgé, moi, toute ma vision de l'entreprise. Qu'en fait, on peut tout dépasser dans l'entreprise si on veut aller sur la commune, sur la commune d'entreprise. Donc c'est pour ça que, oui, c'est une utopie, mais si on va plus précisément dedans, on peut vraiment construire ce qu'il faut pour le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche bien avec toutes les organisations, sauf une, je suis désolé parce que je ne suis pas tout à fait dans le même sens que sauf avec les entreprises libérées, qui pour moi, alors là, c'est une utopie totale, ne fonctionne pas pour celle que j'ai vue. Mais même une entreprise très hiérarchisée, une entreprise très délégative, en fait, il faut, et c'est ce qui est important à faire, il faut que le numéro 1 décide de le faire et sache le faire. En fait, la problématique de ça, c'est que ça ne peut pas venir de collaborateurs intermédiaires ou de collaborateurs, de managers intermédiaires, parce qu'ils vont se tuer dans le système. Et ça, c'est la sociologie des organisations. L'organisation est plus forte que la capacité individuelle de le faire. Soit elle va broyer la personne, soit la personne devra venir, soit elle va être éjectée de l'organisation parce qu'elle va lutter contre l'organisation majeure. Donc il faut que les numéros 1, en fait, dans l'entreprise et les bords de l'entreprise décident que ça fonctionne comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est si on veut tendre vers cette utopie, c'est que c'est d'une efficacité redoutable. Les entreprises qui arrivent à faire ça sont beaucoup plus performantes. Elles ont moins de turnover, elles ont des collaborateurs beaucoup plus engagés. Donc c'est génial. Et à la fois, c'est assez simple. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que, oui, on peut théoriser toutes les organisations, mais à la base, une organisation, une entreprise, c'est économique. Elle doit servir un service, elle doit s'organiser pour rendre un service, quel qu'il soit, qu'il soit industriel. Donc l'organisation, elle va quand même être assez guidée par ce qu'on doit faire, par ce qu'on doit construire, et on peut le faire. Par contre, on peut mettre dans chaque organisation à partir du moment où les dirigeants sont sincères, veulent le faire, apprennent à le faire et prennent le temps de le faire, ça va marcher. Le bémol aussi à ça, pourquoi beaucoup ont testé et ne le font pas, c'est que quand vous passez d'une organisation qui est extrêmement processée, donc qui repose sur les process et pas sur les hommes, et vous décidez de passer sur une organisation qui repose sur les hommes, il y aura toujours du process, mais ils sont gérés et arbitrés par les hommes. La première conséquence quand vous passez de l'un à l'autre, c'est que votre efficacité diminue. Vous allez passer par une première année, généralement, où vous allez baisser vos rendements, baisser, parce que vous allez toucher à tous les process qui existent, et les gens ne passent pas du jour au lendemain d'une entreprise où on vous demande d'appliquer une tâche à une entreprise où on vous demande d'être responsable. Ça ne passe pas comme ça. Il faut leur apprendre, il faut leur oser. Petite anecdote, quand j'étais en grande distribution et je m'occupais d'un secteur caisse, contre l'avis de mes patrons, à un moment, dans un magasin, autrefois, parce que maintenant il n'y a quasiment plus d'hôtesse, la seule personne que pouvait rencontrer un client, c'était une hôtesse. Donc moi, je leur avais donné un chéquier. Je leur ai dit, vous rentrez un client, vous rencontrez un client, il n'est pas content, vous lui faites un chèque. C'est vous qui estimez, vous me faites juste un justificatif pour le faire. J'étais jeune et con, non, je suis vieux et con, sûrement, donc j'aurais dit, j'aurais fait le chèque et ils vont le faire. Au bout d'un mois, il n'y avait pas un chèque qui était fait. J'ai dit, pourquoi vous ne le faites pas ? Première réponse, ouais, mais enfin, c'est l'argent du magasin, on tient à ce qui fonctionne, il y a la redistribution, c'est effectivement très économique. Et puis deux, on ne sait pas comment le faire. C'est quoi l'échelle, comment on fait, pourquoi pour lui, pourquoi comme ça. Donc tout ça, c'est de l'apprentissage. Et c'est pour ça que pour les dirigeants qui veulent rentrer, qui veulent construire une entreprise, qui est géniale, franchement, quand vous vivez ça, c'est génial l'entreprise, on dit l'entreprise, c'est pas toujours facile, c'est génial. Ça demande vraiment de l'énergie, du courage. Ça demande aussi un point qui est important, c'est de réguler les gens qui ne jouent pas le rôle de cette entreprise-là, puisque vous ouvrez beaucoup de verrous, vous enlevez beaucoup de verrous de l'entreprise, donc ceux qui ne jouent pas le rôle de l'entreprise et qui abusent de l'entreprise, il faut savoir le réguler. Donc c'est, voilà. Donc c'est, pour moi, c'est des formidables histoires, c'est très engageant, et en tout cas, c'est vraiment intéressant pour des dirigeants d'y réfléchir. Et finalement, moi, la recette que j'ai plutôt découvert après qu'avant, si vous prenez la doctrine sociale de la vie, la subsidiarité, du bon sens, oui, il faut théoriser les choses, oui, il faut construire un certain nombre de sujets, mais franchement, ça marche bien. Et les gens savent très bien si ce que vous faites est sincère. Ils le savent très très bien. Ce qui est d'ailleurs un sujet des entreprises à mission ou des entreprises libérées, entre ce qui est dit et ce qui est fait à certains endroits, les gens le savent parfaitement. Donc voilà. Donc, l'entreprise à mission, ça peut être très bien, si c'est sincère. Moi, j'en connais plus qui ne le sont pas que celles qui le sont. Donc, parce qu'il faut être complètement aligné. Numéro un, le comportement du numéro un dans l'entreprise à mission, il est fondamental. Donc, voilà un petit peu les propos que je voulais en entrée.
Vous avez carrément dominicanisé aussi votre propos, parce que c'était l'illustration à travers la théorie des organisations et l'expérience d'un principe théologico-métaphysique, l'autorité et la forme de la communauté.
Bon. Sébastien, à vous.
Ça marche ? Oui. Non, ça marche pas.
Là, ça va marcher. Oui. Voilà, je voudrais commencer mon intervention par rendre grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui m'a permis de venir ici à travers un échange que nous avons eu avec un peu par hasard, comme le fait souvent l'Esprit Saint avec Olivier. J'ai beaucoup appris là ces deux derniers jours, ça m'a permis de m'extraire en fait d'un quotidien de chef d'entreprise que je vais vous décrire, de venir me nourrir de ce qui a été dit, partagé, et de voir aussi, de confirmer si les directions que je prends avec mon entreprise vont dans ce sens d'une harmonie entre jamais évoqué le mot d'harmonie, peut-être que ce sont les origines asiatiques qui me font utiliser ce mot-là, mais cette harmonie entre cette unité, entre ce en quoi je crois et ce que je fais et pourquoi je le fais. Entreprise et communion, une utopie, c'est pas un titre comme beaucoup des intervenants qui sont venus pendant cette université. C'est pas un titre, une question que j'ai choisie. Quand le cela m'a été partagé, et merci à Flavie notamment de m'avoir expliqué avec frère l'objet. Je me suis senti un peu comme, on dirait, une poule dans un couteau. J'aurais plutôt, puisque nous sommes à la Sainte-Baume, j'aurais plutôt tendance à prendre la comparaison d'Abraham, quand toute chose étant égale par ailleurs, quand le Seigneur l'envoie dans une direction dans laquelle il doit aller, et il y va, et il ne savait pas où il allait. Et il y avait, si je ne me trompe pas, quelqu'un de théologie. Alors moi je suis pas un théologien, donc j'écoute, j'entends, il y a des petites phrases comme ça qui viennent. Et il est parti sans savoir où il allait, et c'était le signe qu'il était dans la bonne direction. Voilà, et donc je suis venu ici, je ne savais pas trop où j'allais, et peut-être que c'était le signe que j'étais dans la bonne direction. Donc moi je suis Sébastien Comte, j'ai 51 ans, je suis marié à Caroline depuis 28 ans, nous avons 4 enfants, je ne connaissais pas la Sainte-Baume avant il y a 2 ans, nous sommes venus un peu par hasard avec ma femme et notre dernier fils, je ne connaissais pas bien la figure de Marie-Madeleine, donc je suis très heureux de revenir ici pour réapprofondir. Et je connaissais pas bien, et je connais pas bien l'ordre dominicain, et je suis très impressionné du niveau de pensée auquel nous avons été amenés, et je suis d'autant plus impressionné d'apporter ce petit témoignage de ce que je fais avec l'entreprise que j'ai créée, voilà, 18 ans. 18 ans d'entrepreneuriat, et aujourd'hui d'une direction d'entreprise, d'une petite entreprise de 10 personnes, dont je vais vous expliquer ce que nous faisons. En deux mots, quand même, un parcours où moi je suis l'entreprise que j'ai créée dans le monde de la finance. Je regrette que Pierre-Yves ou Nicolas Levrez ne soient pas restés, n'aient pas pu rester. C'est une entreprise que j'ai créée en 2008. Et si vous avez bien suivi, si vous avez bien entendu, ou si vous connaissez votre actualité économique, 2008, ce n'était pas la bonne année pour créer une entreprise dans le monde de la finance. Et c'était d'autant moins une bonne année que je ne venais pas de l'univers de la finance, puisque avant de créer cette société qui s'appelle Angelor, vous remarquerez le nom Angelor, il ne servirait pas Dieu et l'argent. Avant de créer Angelor, j'ai travaillé 12 ans plutôt dans le monde industriel et beaucoup à l'international, dans des petites entreprises comme dans un grand groupe. Je suis resté 7 ans. Et avant de travailler dans l'industrie, j'ai voulu créer une entreprise à la sortie de mon école de commerce en 1994. C'était une entreprise que l'on qualifierait aujourd'hui de sociale, une entreprise à impact, puisque le projet était de créer un centre de télétravail pour personnes handicapées. Et donc, pour ceux qui ont connu 1994, centre de télétravail, on ne savait pas très bien ce que c'était. L'informatique, il y a quelques informaticiens dans la salle. Il y avait encore les modems qui ne permettaient pas beaucoup de bien travailler de manière productive. Et puis le handicap en entreprise, on n'en parlait pas beaucoup. La loi sur handicap n'était pas encore passée. Donc on était très précurseurs. Et en fait, le projet n'a pas abouti. Ça a été un échec. J'ai appris tous les facteurs clés de l'échec, des échecs de création d'entreprise. D'où le fait que j'aille travailler chez les autres, et en fait pendant 12 ans mon objectif ça a été de travailler dans des entreprises qui me permettent de me former pour éviter de recréer une entreprise qui ne soit pas viable. J'ai eu la chance d'être bien formé, je passais dans des grandes écoles comme l'INSEAD et puis l'IMD, puisque l'entreprise où je travaillais avait des partenariats de formation avec ces écoles. Et quand je suis sorti de chez Schindler, pardon, je ne l'ai pas dit, je travaillais chez Schindler, le numéro 1 mondial des ascenseurs, enfin des escaliers mécaniques et numéro 2 mondial des ascenseurs, où je travaillais au niveau du groupe sur l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde. Après avoir travaillé au préalable au Vietnam et à Calcutta, ma coopération, j'y reviendrai un petit peu par rapport au projet Angéorg et comment ça m'a animé dans le comment je fais et pourquoi je fais. J'ai intégré donc en sortant de chez Schindler l'incubateur de l'EM Lyon où j'ai un peu côtoyé Pierre-Yves mais aussi tous les gens de la création d'entreprise. Et mon idée était un peu utopique à l'époque, j'avais 33 ans et mon idée c'était, en fait c'est que j'avais plein d'idées de création d'entreprise. Et à l'incubateur, le directeur Michel Coster, pour ceux qui le connaissent, m'a dit rentre, mais choisis de te concentrer, focalise-toi sur une idée. Et j'ai pris celle qui me paraissait le plus complexe, puisque on était bien entouré eux-mêmes. J'ai pris cette idée de comment est-ce que je peux mettre à profit ce que j'ai appris pendant ces 12 dernières années, mais aussi pendant les 20 années d'éducation que j'ai eues grâce à la famille adoptive, parce que vous avez remarqué que je m'appelle Sébastien Bonte, mais j'ai un profil qui n'est pas très occidental. Ça m'a marqué sur mon envie de rendre en fait un petit peu de ce que j'avais reçu à d'autres. Et je me suis dit, il y a plein d'entrepreneurs qui ont plein d'idées, mais qui prennent le risque de se lancer et qui vont échouer. Comment est-ce que je peux faire pour utiliser ce que je sais faire, ce qu'on m'a appris, mes compétences, mes réseaux, mes expériences, pour aider les entrepreneurs. Et de là est né Angéorg, avec l'idée de pouvoir apporter aux entrepreneurs de l'argent, donc la finance, mais au-delà de la finance, des compétences et des expertises dont les entrepreneurs ont besoin, parce que quand on lance une entreprise, on ne sait pas tout, on est expert de son domaine, mais créer son entreprise et la développer, c'est un autre sujet. Et pour aider les entrepreneurs, j'ai choisi de les mettre en relation avec des chefs d'entreprise expérimentés. Je me suis beaucoup inspiré du réseau Entreprendre, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un réseau associatif de chefs d'entreprise qui aident des entrepreneurs, pour que ces chefs d'entreprise expérimentés puissent investir dans les entrepreneurs qui se lancent et les accompagnent dans leurs premières années de création et de structuration de développement de leurs entreprises. Je vous passe un peu rapidement l'histoire d'Angéorg, parce que je vais y revenir sous un angle plutôt spirituel après. Aujourd'hui, Angéorg, c'est quelques 33 millions que nous avons investis avec ces investisseurs, qui sont essentiellement des chefs d'entreprise, des gens qui ont vendu leurs entreprises, ce qu'on appelle des family office, mais aussi, depuis quelques années, des institutionnels, écoles d'ingénieurs, et je cite notamment l'ISARA, qui est l'école qui nous a fait confiance rapidement qui est l'école d'ingénieurs agroalimentaires de Lyon. Le Crédit Agricole, un assureur. Et nous avons financé 80, à peu près 80 jeunes entreprises innovantes. Et nous avons permis la création, nous avons contribué à créer avec ces 80 entreprises, ou en tout cas celles qui ont perduré, puisqu'on a eu des échecs, mais celles qui ont perduré ont créé quelques 1000 emplois directs. Et nous générons aujourd'hui pour les investisseurs qui sont sur les secteurs d'activité où nous nous concentrons, c'est-à-dire la santé, l'environnement et l'alimentation, nous générons un rendement de supérieur à 15%. Ce sont des chiffres qui sont des chiffres importants pour mesurer en fait l'impact de ce que nous faisons. Et quand vous dites, quand on parle dans l'univers financier, 15% c'est à la fois bien et si on compare au livret de livret A, mais c'est quasiment le minimum requis par les investisseurs institutionnels aujourd'hui pour souscrire dans les fonds que nous montons. La particularité d'Angéorg, c'est que je me suis beaucoup inspiré de l'économie sociale et solidaire, on en a parlé tout à l'heure, facto, il y avait cette association des entrepreneurs humanistes avec les travaux de recherche du CRESO. Je me suis beaucoup inspiré de l'économie sociale et solidaire pour réinventer une gouvernance qui soit une gouvernance participative, parce que finalement 2008 a été très aidant pour moi pour bien positionner ce que j'avais intuité à l'origine d'Angelor, c'est-à-dire une financiarisation qui désincarnait complètement la relation entre l'actionnaire et l'entreprise, au risque de tomber sur un système financier dont l'objectif n'était que de créer du profit, en fait, que de créer de l'argent, l'argent qui crée l'argent, sans se soucier de l'impact sur l'entreprise, la manière dont l'entreprise est conduite. Et donc, avec Angelor, on revient sur un actionnariat de proximité, et les fonds que nous montons sont des fonds qui regroupent 30 à 50 personnes pour rester à taille humaine, pour investir sur 6 à 10 entreprises dans lesquelles les actionnaires sont au contact des entrepreneurs. Et nous sommes, nous, Angelor, une sorte d'animateur, de fédérateur, de courroie de transmission pour que ces actionnaires puissent apporter, encore une fois, au-delà de l'argent, leurs expériences, leurs compétences, leurs réseaux et ces facteurs clés de succès d'entrepreneurs qui fait qu'aujourd'hui, là, nous avons la joie, déjà, la fierté d'avoir des résultats économiques et financiers qui fassent que les entreprises investisseurs continuent de nous faire confiance. Et ça, ça a été aussi inspiré par un parcours où, en 2009-2010, j'ai intégré le réseau des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et le parallèle, alors là, avec Entreprise et Communion, c'est que je ne sais pas si vous connaissez ce réseau des entrepreneurs et des gens chrétiens, c'est l'ancien patronat chrétien, le CFPC. Donc c'est pas un mouvement récent, hein, c'est un mouvement qui, alors je ne suis pas historien, mais je pense qu'il doit dater des années 40, réfléchit à comment est-ce qu'en tant que chrétien, on travaille dans l'entreprise et comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'une entreprise, nos convictions chrétiennes viennent alimenter le travail au quotidien. Et ça m'a beaucoup aidé, puisque je faisais partie d'un groupe d'une dizaine d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On se voyait tous les mois, on avait un accompagnateur spirituel, et c'est avec eux qu'on a initié le premier fonds, avec une vision de comment on fait la finance chrétienne. Alors, c'est une vaste question, je pourrais éventuellement répondre à quelques questions là-dessus, mais... voilà comment on essaie de faire, c'est en fait, on essaie de ne pas faire de la finance chrétienne, mais on essaie d'être des chrétiens qui nous servons de nos convictions pour utiliser la finance comme un outil au service du bien commun. Et ça, on l'a inscrit en 2021 dans nos statuts, puisque nous sommes société à mission, qui est un statut permis par la loi Pacte de 2019. Et on l'a fait parce que on voyait la croissance de l'entreprise se développer avec beaucoup plus d'argent arriver, des retours sur investissement qui étaient importants et donc de la génération de masse financière. Et donc potentiellement, aujourd'hui, quand je vous dis 33 millions, ça paraît une certaine somme, mais on est dans un univers où 33 millions, c'est rien du tout, puisque dans notre univers, il y a quelques... 1500 milliards qui s'investissent, 1500 milliards investis, donc 33 millions, on va dire, on a de la marge de progrès pour augmenter notre impact. C'est la bonne nouvelle. Et donc on s'inscrit comme société à mission avec une raison d'être qui est de construire, de développer une finance au service du bien commun, avec trois engagements qui sont inscrits dans nos statuts. Le premier engagement, c'est d'investir dans des secteurs qui répondent à des enjeux sociétaux, donc la santé, l'environnement, l'alimentation. On n'a fait que écrire ce que nous faisions depuis 10 ans. Le deuxième engagement, pareil, c'est on a écrit ce que nous faisions, c'est d'accompagner les entrepreneurs à devenir dirigeants. Et donc là, on a une démarche vraiment très humaine de mentorat, de coaching, co-développement entre entrepreneurs. à devenir des dirigeants donc, de PME responsables. Et là, on intègre la dimension environnement, social, gouvernance, mais en portant une attention beaucoup plus particulière à la partie sociale et gouvernance, parce que nous sommes dans le monde de la jeune entreprise innovante et que l'impact environnemental, forcément, va augmenter, puisqu'on vise la croissance de ces entreprises. On ne peut pas viser une trajectoire zéro, c'est quand on démarre et qu'on vise la croissance. Et puis un troisième engagement qui est mal écrit, que nous allons sans doute réécrire, qui est redistribuer une partie de nos richesses financières à des associations pour garder la gratuité dans notre activité et ne pas être dépendant ou serviteur de l'argent. Et que garder en tête que cet argent il puisse bénéficier aussi à d'autres parties prenantes que les actionnaires, les entrepreneurs et les salariés. Mais c'est un objectif qui est mal écrit parce que nous allons sans doute le retravailler sous une dimension plutôt d'exemplarité de ce que nous voulons faire dans Angelor et essayer à travers ce que nous faisons d'inciter les entrepreneurs que nous finançons à dupliquer, à faire la même chose. Et donc en conclusion sur le propos, pardon, c'est un peu long, mais sur entreprise et communion, pour moi, l'entreprise que j'ai montée, elle m'a aidé en fait à augmenter ma foi. Ça a été une expérience, et ça reste une expérience spirituelle. Je vous donne trois exemples rapides. Le premier, c'est 2 ans après la création d'Angelor, j'ai failli déposer le bilan, parce que l'activité n'était pas suffisante pour pouvoir vivre. Le modèle économique n'était pas pérenne. J'ai cherché plein de solutions et j'étais sur le bord de déposer le bilan. Je m'en souviendrai toute ma vie. Un vendredi à 14h, j'ai pris la décision d'aller au tribunal le lundi. Et à 15h, un coup de fil d'un membre des EDC qui avait entendu que quelques mois avant, j'étais en recherche de solutions et qui me dit « Tendez-vous ». Et quand je lui dis « j'ai pris la décision », il me dit « Ton projet est trop bien pour qu'on nous plante, on va t'aider ». Et donc, ils ont été 2 membres des EDC à m'accompagner. La deuxième expérience, c'est un recrutement qui a été difficile à faire. J'ai beaucoup cherché, j'avais tout essayé, toutes les pistes possibles. Et à un moment donné, j'étais un peu épuisé. C'était le 15 juillet. Je pars en vacances et je dis au Seigneur... voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant il faut que tu m'aides. Et au retour des congés, une candidature, un peu par hasard, qui vient et qui fait que j'ai le recrutement, nous finalisons un recrutement, le recrutement qui m'a permis de continuer de développer l'entreprise. Aujourd'hui, je suis dans une phase d'expérience spirituelle qui est la gestion de la croissance, la gestion de la richesse. Et c'est pas le plus simple non plus. Je vous confie aussi à votre prière, parce que quand on a à la fois le succès, l'argent, on peut vite être déformé, dévié de notre trajectoire, et c'est là où aussi notre statut de société à mission nous permet de le faire. Et pour résumer sur cette expérience spirituelle, je suis passé du moi, parce que c'était mon projet, c'était ma manière de faire, c'était mon expérience, etc. Au royaume, au Seigneur, en confiant vraiment cette entreprise que j'ai aujourd'hui au Seigneur. Il en fera ce qu'il voudra, à l'Esprit. Et moi, je me positionne en co-création, c'est-à-dire que j'essaye, parce que c'est pas toujours facile, mais la prière m'aide beaucoup, et Aura et Labora, dont on a parlé, que j'ai évoqué hier, c'est essentiel pour pouvoir garder cet alignement, cet ajustement, on parlait bien libre, cet ajustement de ce projet d'entreprise, cette entreprise au Seigneur. Voilà, l'entreprise, pour conclure, l'entreprise et communion et utopie, si j'essaye de faire la méthode de saint Thomas d'Aquin que j'ai appris, j'ai découvert hier, c'est. Non, l'entreprise ne peut pas être un lieu de communion, parce que l'entreprise est une organisation laïque. La définition de l'entreprise, c'est une entité autonome qui produit des biens, des services, de la richesse. Donc non. Mais, si j'ai bien compris l'objection, c'est que l'entreprise c'est un regroupement de personnes et là je rejoins parfaitement le point de Bernard sur le rôle du dirigeant, mais je rajoute aussi le rôle de l'actionnaire, puisque nous on est aussi actionnaire, donc j'ai des actionnaires dans mon capital, même si je suis majoritaire, nous sommes actionnaires minoritaires de toutes les entreprises que nous avons financées. Et le rôle des dirigeants et des actionnaires est absolument crucial pour pouvoir insuffler cet esprit de communion dans l'entreprise entre les personnes. Et ça ne va pas jusqu'à forcément la dimension eucharistique de la communion, mais si en tant que dirigeant, et moi aujourd'hui aussi en tant qu'actionnaire, j'ai cette communion personnelle avec le Seigneur par l'Eucharistie, par la confession, par la pratique de l'oraison, de la prière, et bien je pense que ça se diffuse, et l'esprit en fait travaille derrière dans ces communautés de personnes qui peuvent vivre des moments de communion avec. Troisième point de l'argumentation sur l'utopie, un enjeu assez important sur l'universalité. Et vous voyez que l'entreprise, avec le service, la finance au service du bien commun, je n'ai utilisé que des mots qui sont des mots que tout un chacun peut s'approprier, même si derrière, pour moi, la doctrine sociale de l'Église, j'ai suivi les parcours hachés Pierre-Yves a cofondé, je les ai même animés, et je crois que la doctrine, tout ce que vous entendez à travers la raison d'être et les engagements sont corrélés à des points de doctrine sociale de l'Église. L'option préférentielle pour les pauvres avec la solidarité, le bien commun en tant que condition d'épanouissement des personnes, sauf que ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas la doctrine sociale, vont voir le bien commun sous la forme des biens communs. Alors, je ne reviens pas sur les définitions, et l'attention aux personnes, les entrepreneurs, pour qu'ils deviennent dirigeants, avec l'aspect social et le rôle sociétal de l'entreprise. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour ces deux éclairages très, très intéressants, aussi très personnels. C'est un remerciement dans le remerciement. Et très éclairant. Alors moi j'aurais une question à chacun d'entre vous avant que nous passions à la salle. Vous êtes arrivé à une conclusion analogue sur le rôle essentiel du dirigeant. Vous l'avez complété effectivement par le rôle de l'actionnaire qui n'est pas le dirigeant entrepreneurial mais qui a une position finalement d'autorité aussi parce qu'il a quelque chose qu'il est en mesure d'orienter par sa propriété du capital. Donc ça vient d'en haut, c'est un sujet qui n'est pas propre à l'entreprise, hein, c'est un sujet qui est propre à l'organisation, pour ceux qui ont eu un jour entre les mains ou qui ont dans leur bibliothèque ce petit classique que tout un chacun devrait lire, et notamment tout chrétien, du maréchal Lyautey, Le rôle social de l'officier. C'est un texte qui, dans un autre contexte, parle à peu près de la même chose en réalité, hein, c'est que beaucoup de choses sont possibles selon le chef, et voilà, donc il faut beaucoup miser sur la formation du chef, mais justement quand on n'est pas un chef, quand on est en N plus quelque chose, et que le plus tend vers l'infini, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on vide les cendriers, la distance au bien commun peut devenir intergalactique. Hein, ce n'est pas tout à fait la vision de communion. Et là, je peux retomber sur cette difficulté, alors que, comme nous sommes dans ce contexte, on peut tout de suite faire le saut vers cette question-là. Si vous avez lu les Confessions de Saint-Augustin, vous savez que, plutôt vers le début, Saint-Augustin parle de la charité, il parle aussi de ce qui peut faire la différence entre la communion fraternelle et une association de brigands. Par ailleurs, j'aime bien parler de ce que je vais vous dire maintenant, parce que en général ça jette un froid, donc c'est bien, ça va rafraîchir tout le monde sans climatiseur. Finalement, ce modèle entrepreneurial dont Pierre-Yves Rouvès nous a montré dans quelle dynamique historique et culturelle il s'inscrivait et sur quel soubassement idéologique il s'appuie, s'inscrit justement dans un soubassement idéologique qui est largement, on en a parlé déjà un peu, notre cadre mental et notre référentiel, et qui, si on le compare à des approches théologiques, si on prend par exemple saint Thomas d'Aquin, et si dans les écrits de saint Thomas d'Aquin, on regarde particulièrement ce qu'il a écrit sur les anges, et vous savez qu'il y a de bons et qu'il y a de mauvais anges, hein, on vous a tous dit ça, en fait, ce qui est le plus proche théologiquement du modèle libéral, utilitariste, classique, c'est la société des démons, exactement comme saint Thomas d'Aquin l'a décrit. C'est la manière dont des êtres agissent chacun selon leur intérêt, sans communion, sinon par un pacte de brigands de temps en temps, pour mal agir. Chacun pour soi, Dieu n'est plus pour personne, hein, dans la société des démons. Il est en surplomb et puis on est là. Alors, est-ce que ça marche en très 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 loin dans la hiérarchie, c'est-à-dire plutôt vers le bas, est-ce que ça marche?
Moi, ce que j'aime bien, la société des brigands, moi j'en ai vu beaucoup dans l'entreprise. Si le dirigeant, alors les actionnaires, je suis d'accord, mais les dirigeants, le premier boulot d'un dirigeant, donc plutôt les grosses boîtes, c'est pas dans toutes les boîtes, c'est de gérer son actionnaire. C'est quand même son premier boulot. Si vous prenez les entreprises d'émission comme Danone, qui ont été citées en exemple, sauf qu'ils ont juste, le patron, il a juste oublié qu'il fallait déjà ses actionnaires, il a juste oublié que la boîte, il fallait qu'elle soit rentable, et il a juste oublié que tous ces cadres dirigeants partaient. Donc il faut remettre les choses, il faut vraiment gérer son système. Après, quand on descend complètement en bas dans la hiérarchie, en fait, si vous avez une entreprise qui a vraiment mis, moi je suis né professionnellement chez Auchan, dans la Galaxie Lumière, où j'ai commencé à la caisse, j'étais chef de rayon, j'étais chef de secteur, j'étais pas nouveau. Ce que voulait le patron d'Auchan, c'est que chacun dans l'entrepôt, on avait le sentiment et on le vivait que chacun d'entre nous était important dans les dispositifs, quel que soit notre job. Et le deuxième sujet, tout était fait pour qu'on ait le plus de levier d'action dans notre périmètre. À tel point que moi, quand j'étais jeune, je me suis dit, c'est complètement fou, je peux acheter des containers de l'autre côté de la terre, je peux faire des trucs que ce n'est pas possible. Sauf que je ne voyais pas qu'il y avait juste à côté un contrôle de gestion qui regardait, un manager à côté qui disait bah, tu vas un peu trop loin. Donc en fait, le sujet est de mettre ça. Dans les entreprises qui sont extrêmement processées, j'en ai connu dans les centres d'appel, dans les centres de gestion, une des filiales que j'ai aujourd'hui, ça fait 5 ans que je travaille pour sortir d'un mode de gestion où les gens font des tâches. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient importants et comprennent ce qu'ils font pour les clients. Je donne un exemple, on a failli perdre un client. Donc on gère 4 millions de Français en gestion de santé et de prévoyance, c'est une boîte qui s'appelle Génération, peut-être certains le connaissent en tant que tel. Il y a un dirigeant d'une boîte qu'on gère, c'est 10 000 personnes pour nous, c'est un beau client, qui a eu un problème sur l'optique de sa fille. Il a appelé, c'est un truc de 50 euros, hein. Il l'a appelé, la collaboratrice lui a dit je voudrais bien vous rembourser, mais je ne peux pas. Parce que dans le process, à l'époque, c'était le DG de la boîte qui devait signer 50 euros. Voilà, on a failli perdre un client. Et ça, je l'ai vu de maintes et maintes fois. Quand vous donnez, quand vous travaillez sur ça, là, vous n'avez plus une bande de brigands. Vous avez des gens qui comprennent le sens de l'entreprise, qui veulent y participer. Et moi, dans tous les métiers que j'ai eus, tous les métiers, il y a des bonnes choses. Dans tous. Et donc, c'est ça qu'il faut apprendre à valoriser, c'est ça qu'il faut apprendre à voir. Et il faut travailler en permanence pour que nos managers soient tournés vers les autres. Tout le monde doit être important dans l'entreprise. Les managers doivent travailler là-dessus. Mais je reviens, en tout cas, c'est la conclusion de 35 ans de métier. Ça ne fonctionne que si durablement la tête de la boîte a décidé de mettre une organisation et un fonctionnement qui font ça. Dans la boîte, j'expliquais à mon DG, dans la boîte, on essaie de changer la philosophie pour avoir des gens plus responsables, plus autonomes. n'arrivent pas à comprendre, les dirigeants n'arrivent pas à comprendre. Je lui dis, mais ça prend 4, 5, 6, 7 ans d'y arriver. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont vécu dans ce système-là pendant 30 ans. Donc, il va falloir changer les systèmes, il faut toujours être productif, il ne faut pas tout casser. Et voilà. Donc, il faut de la résilience, voilà. Et il faut apprendre aux gens à être autonomes et à être responsables et à aller chercher leur sens par eux-mêmes. La grande responsabilité d'entreprise, pour moi, c'est de donner la liberté aux collaborateurs. Enfin, moi, c'est ma truc. Et la deuxième, c'est de donner que nos collaborateurs soient toujours employables. Voilà. Ça, c'est vraiment viscéralement, donc je travaille tout le temps là-dessus. Voilà. Pour qu'ils aient les choix de le faire, y compris de nous quitter. Si on n'est pas heureux chez nous, ici, on ne peut pas leur donner des carrières qui le font. Donc oui, ça marche, mais voilà, ça ne marche que si on a décidé de le faire. Sinon, c'est moyennisant. Voilà, on apprend. C'est le modèle qui ne marche plus du tout des consultants, des grands cabinets de consulting qui sont vraiment en difficulté aujourd'hui. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, vous rentrez, vous sortez de grandes écoles, pendant 2-3 ans, vous rentrez, vous bouffez de la mission de consulting à fond avec des trucs qui sont souvent inintéressants ou des trucs qui sont intéressants, et 70% des effectifs vont partir. Bah, voilà, ça, c'est pour moi le contre-exemple de ce qui fait. Bah, à l'époque, ça marchait parce que ça donnait des cartes de visite, aujourd'hui, ça ne marche plus, ils n'arrivent plus à recruter, ils ont mal fou à recruter, ils ont un turnover monstrueux. Ils subissent en tant que tel. Ah oui, parce que le modèle n'est pas bien posé. Donc moi, vraiment, le sujet derrière, c'est pas tellement de tout penser, de tout faire. Je pense que moi, j'adore l'exemple. Enfin, franchement, chapeau sur cette aventure. Mais elle est l'entreprise à mission, elle l'est par nature, en fait. Enfin, les modèles qui ont été faits, c'est par nature, ça a été pensé comme ça. Et donc derrière, ça décline naturellement. Si vous dites que l'entreprise, vos collaborateurs vont être intéressés par de l'ESG ou des choses comme ça, mais que votre but de l'entreprise, c'est pas de faire ça, et que vous mettez un truc entre mission qui n'a rien à voir avec le truc, ça ne marchera pas. Donc, et il faut aussi relativiser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a une très grosse étude qui est sortie, faite par des cabinets, je suis nul avec les noms, qui a posé la question aux jeunes collaborateurs ce qui les intéressait à l'entreprise. Et bien, ça a fait mal à beaucoup de monde. Ça a fait mal à beaucoup de monde. Moi, c'est ce que je m'attendais à ça. Moi, ça m'a pas fait mal, mais vraiment ça. L'ESG arrive en 16e position dans les critères. Les premiers, c'est l'argent. Le deuxième, c'est mon organisation de temps de travail. Donc, et c'est pas mal en soi. C'est-à-dire que moi, c'est pas ça qui est mal. C'est que, en fait, les gens, ils ramènent à ce qui a du sens pour eux dans un premier temps. Vous pouvez faire de l'ESG vous donner du sens que si vous avez de l'argent, que si vos conditions de travail sont intéressantes et que si votre entreprise est viable. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il faut travailler. Vraiment, le leitmotiv, c'est ça. C'est, voilà. Et là, voilà. Après, dans une entreprise où vous n'avez pas ça, bah, il faut vivre chrétiennement dans l'entreprise. Il ne faut pas se battre contre des moulins à vent, parce que vous allez vous abîmer. Et puis, il faut vraiment respecter les gens. Je donne souvent un exemple à mes RH que je pratique moi-même. Hein, c'est un exemple. Quand vous êtes des RH, vous avez un truc qui n'est pas très marrant à faire, c'est vous faites des licenciements. Bon, tout le truc. Il y a deux façons de le faire. Vous appliquez le droit, la procédure de droit en termes de licenciement, c'est inhumain. Mais c'est ce qu'il faut faire parce que ça garantit les risques juridiques pour l'entreprise. C'est inhumain. Enfin, ça change en travers le détail, mais c'est proprement inhumain ce qu'a pourvu le législateur. Soit vous dites, moi je vais faire un licenciement, mais mon objectif dans le licenciement, c'est que la personne que je vais licencier, elle me dise merci. Alors, pour moi, c'est ça, effectivement. C'est que je vais faire ça et je vais mener un entretien qui n'a rien à voir. Je prends des risques juridiques d'ailleurs. Me faire taper sur les doigts, me faire licencier si je prends les choses. Mais je peux vous dire que, un, d'abord, vous avez moins de contentieux derrière. Et deux, je ne tiens pas statistique, mais les 3/4 des gens m'ont dit merci. Pas toujours, même, parfois 6 mois après, ou 1 an après. Mais c'est le cas. Et vous ne faites pas la même chose. En fait, dans une entreprise, il faut vivre chrétiennement, enfin voilà, avec des valeurs, vous faites de la subsidiarité. Enfin, la doctrine sociale de l'Église, elle s'applique très très bien. Donc, n'allons pas inventer autre chose. Vivons-la et faisons ce qu'on peut faire dans notre système. Mais le système général de l'entreprise, il dépend bien du DG. Et les gens, j'ai essayé moi-même de faire, de lutter contre ça, c'est pas possible. Dans le temps, vous y épuisez, vous y abîmez.
Sébastien. Frère, je relis votre question à la question de l'université. Faut-il tout renverser? Notamment dans notre univers de la finance financiarisée. Moi, je crois que sur un certain. Je ne sais pas si je pourrais vous prendre la méthode de Saint Thomas d'Aquin, mais je ne suis pas assez familier pour le faire, donc je ne vais pas m'y risquer. Donc je dirais que oui, il faut tout renverser, mais il faut faire attention aux personnes. Et le, je pense que le signe d'espoir, comme on l'a dit précédemment, ce sont les jeunes, c'est même vous ici qui prenez le temps de venir pour réfléchir à ces questions et qui demain devrez aussi réappliquer dans votre vie quotidienne ce que vous aurez pu en tirer. C'est pas que de participer, écouter pendant deux jours. Voilà, moi, la manière. Un tout petit exemple très rapide, dans notre univers de la finance, il y a une méthode de valorisation d'entreprise qui s'appelle les discounted cash flow. Alors, il y a beaucoup de méthodes anglo-saxonnes, hein, les discounted cash flow, c'est les DCF. Les DCF, pour ceux qui disent, voilà, très rapidement, l'idée c'est de dire qu'est-ce que l'entreprise génère comme cash et comment, en générant un modèle économique à l'infini, cette entreprise va pouvoir me générer comme rendement par rapport à une croissance infinie sur laquelle on applique des facteurs de risque, mais en partant d'un présupposé qui est la croissance infinie de cette entreprise. Et on a bien vu ces deux derniers jours, là j'étais vraiment très heureux d'entendre ça, on est dans un univers, et quand on a préparé ensemble, vous disiez, on sort de ce système de croissance infinie, et donc ce système-là de valorisation d'entreprise, et encore plus dans notre univers de la start-up, de la jeune entreprise innovante, il n'est pas applicable parce que la croissance infinie, elle n'existe pas. Quoi. Et moi, aujourd'hui, mon objectif avec Angelor, dans le renversement de l'état de la finance, c'est de parler de l'enrichissement intégral. Et cette attention à la personne, c'est vraiment le prendre en compte l'ensemble des dimensions, et ça c'est le bien commun, mais de la dignité de la personne et de sa croissance sur tous les plans. Et c'est pas moi qui l'ai dit tout à l'heure, sur la partie économique, sur la partie humaine, sur la partie sociale, sur la partie spirituelle. Et en fait, les investisseurs, c'est ce qu'ils adorent. C'est-à-dire que tous les mois, on les réunit. Et tous les mois, en fait, ils aiment pouvoir être en contact les uns avec les autres et avec les entrepreneurs qui viennent se présenter leur projet d'entreprise et les entrepreneurs que nous avons financés, dire où ils en sont, leurs problématiques, les enjeux, comment ils peuvent aider. Et en fait, avant même l'enjeu financier, eh ben, il y a un enjeu social, il y a un enjeu intellectuel, il y a un enjeu relationnel. Et puis, quand on rentre dans des dimensions spirituelles avec les uns et les autres, il y a ceux qui partagent les mêmes convictions, il y a ceux qui ne les partagent pas mais qui sont en chemin, il y a ceux qui ne les partagent pas mais qui se disent athées, mais ça engendre des réflexions, des discussions qui en fait touchent à la dimension spirituelle de la personne. Et c'est la même chose avec les salariés. Moi, les salariés, ils savent tous que mes convictions, mais je ne leur impose rien par rapport à mes convictions. À part le fait qu'une fois par semaine, je vais à la messe en milieu de semaine, que le midi, je m'arrête quand je peux, autant que je peux, pour prier l'office de sexe, et que pendant 10 minutes, un quart d'heure, ma porte de bureau elle est fermée et qu'il ne peut pas me déranger. Et comme on a un agenda qui est partagé, les gens savent ce que je fais. Donc, voilà. Et ça, ça empiète, ça vient toucher à la croissance intégrale des personnes. Dans les salariés, les actionnaires, les entrepreneurs, et aussi dans l'écosystème, et on a parlé d'écosystème tout à l'heure, et de capitalisme relationnel.
C'est pas moi. J'ai coupé. C'est bon.
Alors, j'espère que ce n'est pas le signe de partir, c'est pas parce que j'ai parlé de démons non plus, j'espère, et que ça a fâché quelqu'un, mais... voilà, il nous reste, c'était très riche, alors nous avons déjà pris un peu sur le temps qu'on voulait réserver aux questions, mais on peut, avec deux, trois questions brèves, avancer et conclure pour terminer vers 17h30.
Voilà, pourquoi j'ai une question, surtout dans les RH, moi je me retrouve, je suis confirmé, bon, je suis parti à la Bonne Échelle, j'ai un poste à l'autoresponsabilité, je travaille dans une entreprise, c'est Grange, donc c'est un syndicat qui a été mis encore par l'État, effectivement, si le premier, la pyramide, ne décide pas, je veux dire, d'appliquer les bienveillances et les règles, en aucun cas on peut les appliquer dans une entreprise supérieure ou hiérarchisée comme des grands groupes, une entreprise d'administration. On est systématiquement éjecté, même si on a des valeurs, comme les chrétiens, comme les cathos, qu'on peut réappliquer, sinon on est mis de côté. On est complètement écarté. Donc là-dessus, c'est la réalité. C'est la réalité. Après, moi j'ai eu la chance dans ce groupe-là d'être à la tête de la responsabilité sous gouvernement du conseil d'administration d'une structure qui gérait 10 millions d'euros. Donc pendant plus de 10 ans, on peut très bien être bienveillant. Appliquer des valeurs qu'on a eues pendant son enfance, son adolescence, des valeurs catholiques, chrétiennes, être bienveillant, on peut très bien, je veux dire, travailler en faisant, on peut très bien gérer la structure en créant de la croissance, en réinternalisant, en économisant, en créant de la valeur. Tout ça, c'est tout à fait possible, et pour ça, il faut être au plus près des salariés. Discuter avec eux, donner du sens, il ne faut pas leur raconter des sommets, ça c'est clair. Et on peut leur remettre des salaires, on peut leur donner des primes, et on peut très très bien gérer ces structures-là. C'est tout à fait possible, mais il faut le vouloir et il faut beaucoup de volonté. Donc ce n'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible. Et dans ce grand groupe, moi j'ai rencontré des personnes qui sont à un niveau plus élevé que moi, des DRH qui sont pour les dimanches à l'église, qui sont des cathos, des églises, qui étaient publics. J'ai jamais compris moi dans cette direction, je n'ai même pas osé passer des points de poser la question pourquoi ils travaillaient comme ça, y compris pour les licenciements. Moi j'ai le fait, mais bon, il faut expliquer à ces personnes-là, il faut discuter. Ils étaient publics comme personne. Et je me demandais ce qu'ils pouvaient raconter aux prêtres quand ils allaient se confesser. Parce que
peut-être rien.
On ne le dirait pas.
Peut-être rien.
Donc,
juste en remarque sur l'entreprise, est-ce qu'on vise effectivement sur le système général, vraiment, c'est vraiment un dirigeant de le faire. Après, chacun dans son quotidien, on peut faire beaucoup de choses. Enfin, il faut regarder l'autre, il faut s'attacher à l'autre, il faut faire un certain nombre de choses qui permettent vraiment de donner un impact. Et après, moi, il y a un point que j'entendais en travaillant sur les chrétiens à grandes écoles. Il m'avait posé une question, qui était de dire est-ce que c'était bien, sur les 12 des grandes écoles, les gens brillants, tout ça. Il disait est-ce que c'était bien ces années de césure où je vais faire un projet pendant un an pour, j'aurais dit deux choses. Alors, la réponse qu'il attendait, c'est que je réponds oui. Moi, quand on attend qu'on réponde oui, j'ai plutôt tendance à répondre non, c'est vers ça. C'est quand même plus rigolo. Mais sincèrement, c'est ce que je leur ai dit. Il faut dire première chose, bon, d'abord, si vous voulez faire des trucs de l'autre côté, projet individuel, j'ai rien à dire, c'est pour l'enfant fantastique que vous voulez faire. Je dis, si vous faites des césures, pensez quand même qu'en France, le pays le patelin le plus pauvre de France, d'Europe, il est en France. Donc, n'oubliez pas la France si vous faites ça. Je dis, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que vous sortez des grandes écoles, vous êtes appelé à commencer vos carrières dans vos postes, à des niveaux sur lesquels la plupart des gens dans l'entreprise n'arriveront jamais. Et vous, vos parents se sont soit saignés, soit vous êtes nés du bon côté de la truc, et vous me parlez d'aller passer un an de l'autre côté, alors que votre présence, c'est d'être chrétien en école et d'être rapidement chrétien dans les entreprises. Parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'on réinvestisse, nous les chrétiens, c'est qu'on réinvestisse les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans un dîner avec des amis, parmi les très beaux postes, j'ai posé la question, qui a dit en entreprise qu'il était catholique ? J'étais le seul. Donc le vrai sujet derrière, c'est que reprenons, nous parlons de nos bâtons de pèlerin, soyons ce que nous soyons, moi je ne prétends pas du tout être bon ni excellent et machin, mais je suis moi-même en entreprise, ça c'est sûr. Les gens savent ce que je suis, savent comment je fonctionne, je suis entier, je ne suis pas catholique à la maison, ou bon ou mauvais d'un côté ou de l'autre, je suis un. Et en tout cas, moi ce que je ressens en entreprise, c'est d'abord que c'est très très apprécié par beaucoup de gens, mais ça fait des rencontres exceptionnelles en entreprise, mais vraiment des trucs. S'ils s'amusent, je rencontre, déjà j'ai pas le temps, mais j'ai fait mon premier baptême dans l'entreprise avec un truc théologique exceptionnel sur le foot. Mais en fait, les gens viennent vous voir. Voilà, donc c'est important. Donc moi, le premier sujet qu'a donné, c'est soyons nous-mêmes en entreprise. Les entreprises, elles nous ont besoin. Et c'est pas tant un sujet de mauvais ou pas mauvais. Moi, je vais pas rentrer dans effectivement tout le temps. Moi, j'avais quitté plutôt l'église au début parce qu'effectivement, moi, j'avais un problème avec la sainteté. Moi, être chrétien, c'est être saint. Donc, moi, je voyais effectivement des gens au boulot et puis le dimanche, ça me posait un problème. Bon, c'est un peu, voilà. Mais ça, c'est peut-être comme ça. Mais en tout cas, soyons nous-mêmes en entreprise et témoignons. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis et des choses comme ça. Enfin, les gens, encore une fois, ils perçoivent quand c'est sincère, ils perçoivent quand on veut faire des choses qui sont importantes. Voilà. Et la grande responsabilité qu'on a quand on est dirigeant, quand on a des grands diplômes, c'est la seule responsabilité, c'est qu'elle est encore plus fort que pour quelqu'un qui a un beau métier, mais qui n'a pas le loisir d'impacter son organisation. Donc soyons responsables, soyons bien conscients que plus on monte sur l'hierarchie, plus on est diplômé, plus c'est notre responsabilité. Et ça, fondamentalement, c'est important parce qu'on a un impact très important et on peut vraiment, vraiment changer et impacter la vie de beaucoup de gens dans l'entreprise.
Oui.
En fait, je voulais juste réagir très rapidement parce que l'évangile du jour, c'est aimer Dieu fort. Aimer son prochain comme soi-même. Et je pense que si on se réfère à ça, finalement, est-ce qu'on peut s'aimer soi-même? Comment on aime les autres? Et comment est-ce que l'amour de Dieu qu'il nous porte ou que nous lui portons vient nous alimenter? Et avec tout ça, en fait, c'est incroyable quand on se réfère à l'évangile, ça simplifie tout en fait. Et si vous avez à licencier une personne, vous ne licenciez pas, vous fermez un poste, mais ça ne vous empêche pas d'aimer la personne.
Alors, une dernière question, si vous voulez.
On m'a dit.
C'est une entreprise qui existe depuis 60 ans, avec 14 000 collaborateurs, qui fait des croissances de chiffres, qui a énormément de jeunes talents qui se mettent à faire. On y retrouve les caractéristiques que vous avez citées, la liberté, l'organisation, la culture forte, la protection du capital, etc. Donc je suis assez curieuse de savoir ce qui me dit.
Je ne connais pas votre entreprise, je ne sais pas si je l'ai étudié, mais j'en ai étudié plusieurs. Le sujet derrière l'entreprise libérée, c'est la théorie et le dogme qu'il y a derrière. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises libérées ont été bâties, ont été construites sur des mauvais fondements. La plupart des entreprises libérées ont été fondées sur des crises majeures. C'est-à-dire que les entreprises en voie de disparition ont changé leur système, ont été fondées sur des dirigeants qui ont posé un système qui n'est pas l'entreprise libérée. Donc, si vous êtes dans une entreprise libérée qui marche, vous êtes dans une vraie entreprise, en fait. Ma définition, elle est là, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans ce que je vois et dans ce que j'ai étudié, j'ai vu du terrible dans les entreprises libérées. J'ai vu de la manipulation, j'ai vu des décisions qui ne sont pas les bonnes, j'ai vu de l'hypocrisie, j'ai vu des choses qui sont quand même extrêmement... Donc, en fait, si on le dit autrement, l'entreprise libérée en tant que telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est des concepts qui sont très très beaux, moi, j'ai rien à dire sur le sujet. Simplement, ça dépend comment elle est appliquée, ça dépend de la volonté de l'entreprise de le faire. Donc si la vôtre est comme ça, c'est une vraie belle entreprise qui fonctionne et qui n'a même pas besoin de mettre le terme de libéré. Parce qu'aujourd'hui, le terme de libéré, il appartient à une connotation théorique qui, moi, me gêne beaucoup parce qu'elle est par nature, si le dirigeant l'applique d'une certaine façon et si les collaborateurs l'appliquent, elle est par nature manipulatoire. Et moi, les entreprises que j'ai visitées, 5 ou 6 entreprises libérées, parce que à l'époque, la boîte où j'étais se posait la question de ces sujets-là. Moi, j'ai mis un gros warning, parce qu'en fait, ça revient toujours aux dirigeants et à la façon de faire, de la façon de l'appliquer. Voilà. Et c'est l'autre domaine qui est important, et si dans celle-là, ça marche très bien, ça demande un niveau de compétence très élevé. Et c'est très bien, moi j'y souscris, c'est-à-dire que plus vous allez libérer les collaborateurs, plus vous allez rendre autonome, plus il faut que leur niveau de compétence soit élevé, plus il faut qu'ils aient confiance, donc il faut un système de prise de risque qui fasse confiance. Donc si vous avez cette chance-là, c'est génial, mais moi en fait je ne l'appelle pas libéré, même si elle peut-être s'appelle le libéré.
Merci infiniment à nos deux participants, et merci à vous tous, et bonne soirée.